Bonjour Maëlys, à lundi.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi, quatrième émission consacrée à Alexandre Dumas dans la compagnie des auteurs, une série qui vous est proposée par Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, David Jakubowiez, Chloé Kaczmarek et à la console aujourd'hui c'est Clément Daté. Petit-fils d'une esclave noire et d'un marquis créole, Alexandre Dumas est également le fils d'un grand général de Napoléon injustement disgracié qui a tout connu des gloires et de la déchéance, qui a fait de la prison en Italie et qui a refusé de se battre pour mater les habitants de Saint-Domingue, comme le lui avait perfidement demandé Napoléon. De ce père qu'il admirait, Dumas a gardé la fougue, nous l'avons vu lundi, c'était au cours de notre émission biographique avec Julie Anselmini. Ce que l'on aime avec Dumas, c'est qu'il n'est pas donneur de leçons, qu'il était passionné et libre et qu'il ne jouait pas au grand écrivain. Et pourtant, grand écrivain il le fut, il l'aurait même été rien qu'avec sa série des Mousquetaires, à laquelle il faut pourtant ajouter ne serait-ce que son théâtre, dont nous avons parlé mardi, c'était avec Sylvain Léda. Enfin hier avec Claude Schoepf cette fois, nous avons évoqué justement les trois Mousquetaires, mais aussi le pari de Dumas. Cette émission, comme toutes les autres, est à retrouver en podcast. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler notamment de la forme du feuilleton chez l'écrivain, nous sommes en compagnie de Mathieu Letourneux, professeur de littérature à l'université de Paris-Nanterre et spécialiste des cultures populaires et médiatiques. Mais avant de le saluer, je vous propose d'écouter un autre spécialiste de cette culture dite populaire, qu'est en particulier le roman policier, à savoir Francis Lacassin en archive.
Alexandre Dumas est un homme plein de qualités pour moi. Mais en plus, il en a une qu'on ne lui soupçonnait pas, c'est que c'est un des précurseurs du roman policier. Alors vous avez par exemple dans le Comte de Monte Cristo, l'abbé Faria, qui se révèle un détective extraordinaire. Mais il y a également, dans les Mohicans de Paris, il y a un détective aussi qui apparaît et qui démonte une histoire de local clos. Parce que local clos, c'est toujours la tarte à la crème des vieux auteurs de romans policiers, c'est-à-dire le crime impossible dans un local fermé. Et c'est dans les Mohicans de Paris, un inspecteur Jacal qui démontre que le crime a été possible, même si le local était clos. Et surtout, c'est qu'il y a le premier détective de l'histoire, c'est D'Artagnan. Dans le Vicomte de Bragelonne, le roi Louis XIV charge D'Artagnan d'enquêter sur un duel qui a eu lieu dans une clairière aux environs de Fontainebleau. Et D'Artagnan arrive, trouve la plume coupée d'un chapeau, un cheval mort, etc. Et à partir de là, il reconstitue pour le roi toute l'histoire. Et alors le roi sait qui s'est battu et quel est le survivant.
Bonjour Mathieu Letourneux.
Bonjour.
Alors c'est vrai ça, c'est Dumas, l'inventeur du roman policier.
Bon alors comme c'est toujours face à un genre, quel qu'il soit, on cherche toujours un inventeur, ce qui n'a pas grand sens, puisque ce qui fait un genre précisément, c'est quand il y a beaucoup d'auteurs. Ce qui est certain, c'est que une œuvre comme les Mohicans de Paris, en particulier, s'inscrit directement dans la lignée de cette masse vertigineuse de romans feuilletons qui sont proposés tout au cours du 19e siècle et qui s'inventent avec les mystères de Paris dessus, qui sont ce qu'on appelle les mystères urbains, c'est-à-dire les romans criminels de la ville moderne et mystérieuse, où s'invente vraiment tout à la fois l'imaginaire criminel, l'imaginaire des conflits de classe modernes et l'imaginaire de la ville. Et là, les Mohicans de Paris, comme les mystères de Paris avant, hein, comme les Misérables, inventent le vocabulaire de tout ce qui sera notre imaginaire du roman noir, du roman criminel, du roman de la ville.
Donc il fait partie d'une constellation et d'une sérialité. On va le voir parce que vous avez consacré non seulement de nombreux travaux à ces littératures populaires et médiatiques, Mathieu Le Tourneux, mais aussi aux logiques sérielles, aux questions de support, aux questions de genre fictionnel. Et aujourd'hui même, jeudi 2 novembre, vous publiez aux éditions du Seuil un essai intitulé « Fiction à la chaîne », sous-titré « Littérature sérielle et culture médiatique ». Et c'est dans lequel vous montrez que de Fantomas à James Bond, du récit policier à la science-fiction, de la collection Harlequin à la série noire, eh bien, la culture moderne obéit à une dynamique qui est une dynamique sérielle. Est-ce que vous êtes là, avec ce livre qui paraît, dans la ligne droite de vos recherches sur Dumas ?
Oui, absolument. Alexandre Dumas fait partie de ces figures majeures pour comprendre la culture sérielle. Et selon moi, c'est tout à la fois son importance dans l'histoire de la littérature, hein, c'est une de ces figures qui se partagent, qui circulent dans les imaginaires collectifs, et en même temps, selon moi, c'est aussi l'explication de son occultation dans les grandes histoires littéraires, précisément parce que les histoires littéraires favorisent les auteurs de l'unicité, au détriment des auteurs qui irriguent les imaginaires collectifs. Et Dumas, c'est un auteur des imaginaires collectifs.
Alors, les histoires littéraires peut-être, mais le grand public, pas forcément. Comment est-ce que vous expliquez-vous, on parlera de Dumas après, hein, mais cette appétence pour la forme sérielle, aujourd'hui, bon, qu'on voit de la manière la plus évidente dans la série télévisée, très très à la mode, qu'est-ce qui explique dans la culture d'aujourd'hui qu'on aime comme ça, revenir toujours dans un même univers, une fois qu'on a commencé de l'explorer ?
Bah, selon moi, pour le dire très rapidement, notre imaginaire s'est construit sur une grande séquence d'un peu plus de deux siècles autour de récits qui circulent dans les médias et dans des formes commercialisées de la culture contemporaine. Et cette culture médiatique, c'est une culture de la reprise, de la transformation, mais aussi de cristallisation autour de quelques œuvres qui, d'un seul coup, circulent partout. Et les œuvres de Dumas, les œuvres de Gensu, les œuvres de Conan Doyle plus tard, etc., font partie de ces œuvres qui, d'un seul coup, parcourent le tissu médiatique, se transforme, bascule d'un support à l'autre, etc. Et notre culture, c'est une culture de l'incroyable multiplicité des textes, des productions visuelles, audiovisuelles, etc. Et donc, nos imaginaires circulent en permanence dans les médias. Et pour moi, notre goût de ces fictions médiatiques, de ces fictions populaires, c'est un dialogue avec les nouvelles formes de communication et surtout de représentation du monde qui sont essentiellement médiatiques.
Mais ça pourrait ne pas se présenter sous forme de série. Ça pourrait être simplement des grandes œuvres uniques. Mais pourquoi est-ce que la série semble si prégnante ?
La série, c'est précisément l'expression tout à la fois de la reprise, hein, de la reprise et de la transformation, et aussi, c'est pour ça que c'est l'autre aspect pour moi de notre culture contemporaine, et aussi d'une culture de consommation et d'une culture marchande, dans laquelle précisément on évalue toujours les objets, qui sont tous des objets culturels, hein, aussi bien la marchandise que le livre ou le film, on évalue les objets dans leur manière de varier, d'avoir de l'originalité dans des séries d'objets similaires. Exactement comme, pour le dire un peu, même très caricaturalement, hein, exactement comme on choisit nos paquets de céréales dans une gamme de paquets de céréales, eh bien, on choisit une œuvre ou un épisode ou une aventure d'un héros, etc., dans un ensemble. Et on fonctionne toujours dans ces ensembles reprenant,
transformant. Une façon de guider peut-être le consommateur de culture, entre guillemets, parmi une production culturelle trop foisonnante. Comme ça, on sait à peu près où on se trouve, d'une certaine façon.
Voilà, d'un côté, mais de l'autre côté, c'est aussi une façon, en régime médiatique, hein, dans un monde où finalement on communique par les médias, c'est aussi une façon de partager une culture commune. Il me semble que c'est vraiment aussi la matière même d'une culture commune en tant que culture médiatique et marchande. Parce que notre culture commune aujourd'hui est essentiellement une culture médiatique et marchande.
Alors, c'était la forme reine du 19e siècle, déjà, hein, la forme sérielle. L'autre forme reine dans laquelle s'inscrivait Dumas, c'était le roman d'aventure historique. Là aussi, peut-on dire qu'il est un inventeur ? Vous venez de nous dire que c'était pas tellement comme ça qu'il fallait poser le problème, mais je vous pose la question tout de même. Un des inventeurs de ce roman d'aventure, vous avez écrit d'ailleurs un livre à ce sujet, intitulé « Roman d'aventure 1870-1930 » aux presses universitaires de Limoges, c'était en 2010, Mathieu Le Tourneux.
Oui, il va il va être un des inventeurs du roman historique. Ça, c'est certain, hein, derrière Walter Scott, évidemment, mais vous savez...
S'inspirant de lui.
Voilà. Et vous savez que dans chaque pays, il y a, en quelque sorte, un inventeur du roman historique qui est le roman national. Hein. C'est très, très important de le dire. C'est-à-dire que si le roman historique s'invente au 19e siècle, c'est parce qu'il s'agit d'inventer partout les romans nationaux. Hein. Et ça, c'est très important. Alors, pourquoi est-ce qu'en un sens, il est une des figures clés du basculement d'un roman historique à ambition nationale vers des formes de romans d'aventure? C'est parce que c'est un extraordinaire conteur qui a le sens de la dramatisation, justement, des effets de suspense, etc., hein, ce qui est finalement l'essence du roman feuilleton. Et par cela même, il va influencer une grande quantité d'auteurs de romans historiques aussi, mais de romans historiques qui, ma foi, n'en auront pas grand-chose à faire de cette fois-ci du grand roman national, mais qui s'intéresseront à raconter des récits de combats épiques entre mousquetaires, bretteurs, etc. Et c'est là, c'est par son goût du conte qu'il est un grand inventeur de romans historiques.
Alors le mousquetaire, le voici, Athos.
Il était fort silencieux, ce digne seigneur. Nous parlons d'Athos, bien entendu. Depuis 5 ou 6 ans qu'il vivait dans la plus profonde intimité avec ses compagnons Porthos et Aramis, ceux-ci se rappelaient l'avoir vu sourire souvent, mais jamais ils ne l'avaient entendu rire. Ses paroles étaient brèves et expressives, disant toujours ce qu'elles voulaient dire, rien de plus. Pas d'enjolivement, pas de broderie, pas d'arabesque. Sa conversation était un fait, sans aucun épisode. Quoique Athos eût à peine 30 ans et fût d'une grande beauté de corps et d'esprit, personne ne lui connaissait de maîtresse. Jamais il ne parlait de femme. Seulement, il n'empêchait pas qu'on en parlât devant lui, quoiqu'il fût facile de voir que ce genre de conversation, auquel il ne se mêlait que par des mots amers et des aperçus misanthropiques, lui était parfaitement désagréable. Sa réserve, sa sauvagerie et son mutisme en faisaient presque un vieillard. Il avait donc, pour ne point déroger à ses habitudes, habitué Grimaud à lui obéir sur un simple geste ou sur un simple mouvement des lèvres. Il ne lui parlait que dans des circonstances suprêmes.
Un portrait d'Athos extrait des 3 Mousquetaires dans cette lecture de Daniel Sorano. Mathieu Letourne, qu'est-ce qui vous inspire, vous, ce personnage d'Athos que vous connaissez bien? On va parler des 3 Mousquetaires, mais puisqu'on a eu une description d'Athos, qu'en pensez-vous de ce personnage?
Athos, c'est le grand héros épique tel qu'on le conçoit dans l'histoire, mais dans une version romantique, celle également du héros désespéré, du héros marqué en quelque sorte par une posture tragique, hein, puisque c'est celui qui de roman en roman représentera une forme de morale et de, oui, on pourrait dire presque de surmoi des mousquetaires, et en même temps qui dans chaque récit est marqué par une dimension tragique, celle de tout à la fois de son histoire secrète avec Milady et celle du drame du vicomte de Bragelonne.
Alors vous les connaissez tous évidemment, hein. Vous avez étudié ces 3 Mousquetaires et pas que d'ailleurs les 3 Mousquetaires, la figure du mousquetaire dans un ouvrage qui s'appelle Mousquetaire, justement dirigé avec Isabelle Safa et qu'on peut trouver aux éditions Classique Garnier. Cette figure du mousquetaire, il en a été question dans une exposition que le musée de l'armée a consacrée à cette question. C'était en 2014, le commissaire était à l'époque Olivier Renaudot et il disait que le corps des mousquetaires avait finalement joué un rôle bien moindre dans la réalité que dans l'imaginaire collectif, le corps réel des mousquetaires. Et vous êtes parti un peu de là finalement, Mathieu Letourneux.
Oui, c'est une chose très intéressante qu'avait montré cette exposition du musée de l'armée, c'est que finalement, dans l'imaginaire collectif français, le mousquetaire est une des figures clés de cette représentation tout à la fois d'une collectivité militarisée, hein, et en même temps d'un esprit français.
Et pas de mousquetaire à l'étranger en tant que tel.
Non, enfin, il y en a eu probablement, mais c'est en France que le mousquetaire joue ce rôle. Et le paradoxe, c'est que c'est finalement un corps pas très important dans l'histoire. En revanche, ce qui fait son importance, c'est précisément son invention, sa création par Dumas, mais comme figure d'un esprit patriotique français représenté par l'individualisme, le panache, la légèreté française, tout ce qui va définir une identité française au moment où se constituent les identités nationales dans les différents pays européens.
Ils étaient quand même un petit peu comme ça, les mousquetaires. Ils avaient quand même bien un petit peu de panache, ils avaient quand même bien un chapeau avec une plume, non?
Oui, ils en avaient pas tous, hein. Il devait y en avoir qui étaient très très ennuyeux, mais ils en ont en tout cas vraiment chez Dumas.
Donc au fond, Dumas fait des mousquetaires un type, une sorte d'idéal type, un petit peu comme le cow-boy est un idéal type d'autre chose, et ça devient un type de fiction, voilà.
Absolument, ça devient un type de fiction qui va être décliné dans des bretteurs, dans des aventuriers, tout au long du 19e siècle et dans une bonne partie du 20e siècle, et ça va vraiment devenir par-delà le type, la formule quintessentielle de ce qu'est le héros à la française. Et il y a vraiment, pendant une longue période historique, une figure qui va être déclinée aussi bien dans les romans d'aventure géographiques qu'historiques, qui est le héros à la française, qui est un personnage, contrairement par exemple au héros anglais, qui est un personnage qui ne se prend pas au sérieux, qui plaisante, qui est courageux, mais parfois un petit peu inconscient.
Un petit peu léger, oui.
Voilà, et qui est séducteur, évidemment, hein, qui est drôle, etc. Donc on est dans une auto-valorisation du français, mais sur le mode de la légèreté, sur le mode du trait d'esprit, etc. Et indéniablement, cette figure correspond probablement beaucoup moins à la réalité de l'esprit français qu'à sa construction à travers le style d'Alexandre Dumas, qui est en fait, qui correspond trait pour trait à ce que je viens de décrire dans le personnage du mousquetaire.
Donc l'influence de Dumas sur notre inconscient est très forte.
Ah, selon moi, oui, elle est fondamentale.
Ouais. On peut dire un mot quand même des vrais mousquetaires, hein, ceux qui ont inspiré cet idéal type littéraire. D'abord, il faut rappeler quand même que les trois mousquetaires ont existé. Enfin, ils sont inspirés de trois personnages qui ont existé.
Alors, c'est très compliqué avec Dumas. Ça, c'est vraiment la question de l'histoire chez Dumas. C'est-à-dire que l'histoire est reprise comme un manteau d'Arlequin. On prend un bout à un endroit, on prend un bout à un autre, et on recompose pour associer des éléments qui étaient disparates. Et c'est toujours la difficulté avec Dumas, c'est que pour lui, la dynamique de la fiction est beaucoup plus importante que la vérité historique. Et donc, s'il s'agit de permettre un événement majeur, eh bien, on va faire vivre un personnage qui était mort à l'époque, etc. Et chez Dumas, on peut vraiment dire que la dimension historique des personnages est tout à fait secondaire par rapport à leur réalité. Le personnage le plus frappant pour ça, c'est D'Artagnan, évidemment, dont on retrouve très ponctuellement des traits historiques, mais qui est une pure construction chez Dumas, il faut le dire.
Alors, il y a quand même des noms troublants. Hein. Armand de Silège d'Athos d'Hauteville, c'est ça ouais. Isaac de Porto et Henri d'Aramitz. Charles de Batz de Castelmore, dit D'Artagnan. Bon, alors ça, ce sont de vagues inspirations.
Ce sont des noms, pour ainsi dire.
C'est uniquement des noms.
Oui, ce sont des noms dans la chronique. Et leur personnalité, elle est totalement créée par Dumas sur un principe contrastif, évidemment, de complémentarité. C'est bien ça, le un pour tous pour un. Hein. Il s'agit que les personnages se complètent pour former une sorte de fraternité héroïque.
Alors ces mousquetaires, c'est Louis XIII finalement qui les met en selle. Et de Louis XIII à Louis XIV, où ils vont atteindre une sorte d'apogée, ils vont aussi changer dans leur rapport notamment avec la royauté. Et ça, Dumas s'en fait l'écho dans ses livres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'évolution justement des mousquetaires et ce que Dumas en pense?
Au préalable, il faut dire que ce type de question met en évidence le fait que Dumas n'est pas un auteur de romans d'aventure indifférent à l'histoire. En réalité, la trilogie des mousquetaires correspond à un projet de mise en évidence de la construction d'une France moderne. Dans le premier roman.
Il y a une analyse historique.
Oui, une analyse historique, en tout cas un mythe historique qui est constitué. Dans le premier roman, les mousquetaires sont des esprits libres, bretteurs, qui n'obéissent à personne. Et le duel contre les gardes du cardinal, hein, on connaît bien le principe, le fait que les personnages n'obéissent jamais aux règles édictées par le roi, met en évidence finalement qu'ils sont encore régis par une logique d'aristocratie à l'ancienne. Une logique d'aristocratie dans laquelle le pouvoir royal n'est pas encore centralisé. Mmh. Et lorsqu'on avance...
Moins fort aussi.
Voilà, il est moins fort. La noblesse est encore une noblesse liée à l'épée et qui n'obéit à personne. Le pouvoir n'est pas encore centralisé. Or, historiquement, on le sait, hein, la montée en puissance de Louis XIV, elle se fait après le traumatisme de la Fronde, c'est-à-dire de 20 ans après, et la volonté de centraliser le pouvoir et d'affaiblir la noblesse. Or, comment est-ce que la trilogie des Trois Mousquetaires s'achève avec le vicomte de Bragelonne? Donc, D'Artagnan n'est plus ce libre esprit, il est celui qui s'agenouille devant le roi et qui accepte de courber les chines. Autrement dit, le trajet des mousquetaires, c'est celui personnages qui entrent dans les rangs et qui deviennent cette noblesse de l'État moderne français, de la nation française moderne, disons, pour prendre des termes anachroniques, évidemment.
C'est ça. Et on passe d'un groupe, finalement, qui traite directement avec le roi Louis XIII, notamment les questions d'argent, à un groupe qui traite avec ce qui est devenu une espèce d'administration royale.
Absolument. Et sans vouloir révéler la fin de la trilogie, ceux qui dont la personnalité héroïque est trop marquée par les modèles anciens, hein, les modèles épiques, disons, d'une noblesse à l'ancienne, eh bien ceux-là vont mourir.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Alexandre Dumas avec vous, Mathieu Le Tourneur. Il ne faudrait pas oublier aussi que Les Trois Mousquetaires, c'est un roman d'éducation. Et ça, vous le soulignez bien, notamment le parcours de D'Artagnan est un parcours qui relève finalement du roman d'éducation.
Oui, le titre le dit lui-même, hein, puisqu'il s'agira pour D'Artagnan de rejoindre le groupe des mousquetaires. Hein. Au début, il n'en fait pas partie. C'est un roman d'éducation comme le sont tous les grands romans épiques. Hein. Le grand roman épique est le roman de l'élection du héros, hein, de l'apprentissage de l'héroïsme. Pour les Trois Mousquetaires, c'est un apprentissage qui est à la fois épique et tragique, hein, comme il se doit, hein, c'est-à-dire que c'est aussi un apprentissage de la douleur, de la nécessité du châtiment, etc. Je renvoie évidemment à l'épisode de Milady dans ce qu'il a de mise en scène comme pathétique.
Et puis donc on doit apprendre ce dont vous parlez tout à l'heure, le panache, l'esprit de chevalerie, le courage. Et alors, ce qui est intéressant, c'est en effet la diffusion, comme vous avez commencé de le dire, de ces valeurs dans la littérature française. Comment se fait ce glissement de personnages et de valeurs qui leur sont attribuées de Dumas à d'autres écrivains, à d'autres auteurs, parce que c'est ça finalement qui se joue dans la logique sérielle aussi, c'est le débordement de ces personnages types qui vont être repris par d'autres.
Alors, pour le comprendre, il faut bien se rappeler qu'on est à l'époque de la diffusion du roman feuilleton. Et le roman feuilleton, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que tous les journaux ont des romans publiés en feuilleton, par petits bouts. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie aussi qu'à tout moment, il faut de nouveaux auteurs et de nouveaux romans. Donc, dès l'instant où les trois mousquetaires rencontrent le succès, ils vont être imités. Imités par énormément d'autres écrivains. Et donc, le principe du roman historique avec duel, etc., va être à l'instant même repris par toute une série d'écrivains, la plupart sont oubliés, mais des écrivains qui vont retrouver d'autres grands héros de bretteurs. On peut parler par exemple du Bossu, par exemple de Paul Féval. On peut parler d'Amédée Achard, de Michel Zévaco, évidemment bien plus tard avec les Pardaillans, etc. Tous ces grands héros un petit peu indépendants d'esprit et en même temps marqué par le sens des valeurs et de la justice.
Alors ça c'est intéressant parce que ça signifie qu'après Dumas on ne peut plus écrire un roman d'aventure comme on l'aurait fait spontanément. Le genre est d'une certaine façon un peu cloisonné.
Le récit de Capet-d'Épée est très vite structuré et très vite caractérisé par des traits qui sont en effet déjà présents chez Dumas. Pour le roman de Capet-d'Épée à la française, quels sont ces traits? Évidemment l'héroïsme, un certain nombre de scènes types, mais une grande part de dialogue, souvent de l'humour, des bons mots, ce qui renvoie à l'idée du panache, et puis une dimension très mélodramatique qui, elle, caractérise l'ensemble du roman feuilleton, des grandes émotions, des personnages qui pleurent, des personnages torturés, etc. Et ça, ce qui est vraiment tout à fait frappant, c'est que c'est parce que l'œuvre de Dumas est majeure et qu'elle influence immédiatement un très grand nombre d'épigones, qu'en définitive, on va considérer Dumas lui-même comme un auteur de récits de Capet-d'Épée, c'est-à-dire comme un auteur parmi d'autres de romans feuilletons, ce qu'il n'est évidemment pas. Ce qu'il est en réalité, c'est l'inventeur au sens très fort d'un type d'écriture, d'un type d'imaginaire et d'un ton, d'une tonalité du feuilleton.
Alors ça dit beaucoup sur la capacité d'absorption du public des lecteurs ou alors sur le côté peut-être aussi moutonnier des écrivains. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu triste de se dire qu'au fond, pour écrire un roman de Capet-d'Épée après Dumas, il faut reprendre les grandes caractéristiques qui ont été édictées par Dumas. Pourquoi finalement, et peut-être des écrivains l'ont-ils tenté après lui, on ne pourrait pas poser un nouveau paradigme, changer le logiciel, comme on dit aujourd'hui, du roman de Capet-d'Épée?
Alors, je ne crois pas que ce soit une chose triste, et je vais essayer de vous dire pourquoi. En fait, on pourrait dire qu'au moment où Dumas invente le roman historique, le roman de Capet-d'Épée, au même moment, Eugène Sue invente le roman criminel de la ville, et quelques années après, Fenimore Cooper aux États-Unis va inventer le roman d'aventure géographique. Or, et tous vont être imités de la même façon, c'est-à-dire que tout le monde va faire des romans de la ville, tout le monde va faire des romans historiques d'aventure, et tout le monde va faire des romans géographiques d'aventure. Mais quand on y réfléchit, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que on bascule dans une culture médiatique, le journal se diffuse partout, et on bascule dans une nouvelle ère. Le 19e siècle, c'est une rupture majeure par rapport au siècle précédent. Il faut se réinventer, il faut se réinventer une identité collective. Donc ce qui est fondamental au 19e siècle, c'est d'inventer une identité collective. Et donc, on va inventer quoi? Une identité collective sociale de la ville. Ça, c'est Eugène Sue et ses imitateurs. Une identité collective mondiale, d'une globalisation culturelle. Ça, c'est Fenimore Cooper et ses imitateurs. Et une identité collective de l'histoire. Et ça, c'est Alexandre Dumas et ses imitateurs. Autrement dit, ces trois auteurs invente en quelque sorte la mythologie qui va structurer la modernité. Et donc, les imitateurs, ça n'est pas grave. Au contraire, ils participent d'une construction d'une identité collective.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Mathieu Letourneux, nous allons évidemment continuer de parler avec vous d'Alexandre Dumas dans quelques minutes, mais avant cela, laissez-moi vous présenter, si vous ne le connaissez déjà, Éric Marty, écrivain et professeur de littérature contemporaine à l'Université Paris Diderot. Il vient régulièrement avec d'autres lecteurs aguerris nous donner son sentiment sur l'auteur dont nous parlons toute la semaine. Et vous nous faites aujourd'hui, bonjour Éric.
Bonjour.
Le plaisir d'être parmi nous. Un mot d'abord peut-être sur ce qui a été dit dans la première partie de cette émission, ou tout simplement une réaction.
Oui, alors en fait moi de Dumas, je n'aime vraiment que Monte Cristo, parce que je suis, alors hélas...
Pourquoi n'aimez-vous pas les mousquetaires?
Je suis indifférent, tout à fait indifférent aux romans historiques. Justement, c'est, et je suis vraiment touché par les mondes romanesques que ceux qui sont contemporains de leur auteur. Je m'ennuie profondément, j'ai à peine pu lire les Trois Mousquetaires. Et pour moi...
La tête de Mathieu Letourneur.
Oui, pour moi, histoire et fiction sont vraiment deux mondes incompatibles. Il ne peut pas y avoir d'interpénétration entre les deux. Mais quel bonheur de lire Monte Cristo, même si c'est au détriment de la Reine Margot, Trois Mousquetaires, et 20 ans après. Pourtant, il y a d'abord tout de même un partage entre Monte Cristo et ses romans, le génie des noms propres de Dumas, et ça vraiment c'est un élément qui est en partage de tous ces romans, qui aimante l'imagination d'Anglard, Fernand Mondego, futur comte de Morcerf, Caderousse, Villefort, la Bibusoni, et puis ce nom dont tout le monde est amoureux, Edmond Dantès.
C'est de la poésie pure pour vous?
C'est du fantasme. Je veux dire, ce sont des noms qui sont très magiques et qui vraiment sont des noms qui marquent, qui impriment, ils sont comme des fétiches. Mm-hmm. Il y a ensuite cette intelligence politique très balzacienne de Dumas dans Monte Cristo, qui fait de son roman un miroir par lequel on comprend parfaitement la naissance de la société française où nous sommes les malheureux héritiers, à savoir la naissance de la bourgeoisie et la petite bourgeoisie, dont après Napoléon, Louis XVIII est le père, ce que le roman désigne au chapitre 6, qui est un très très important chapitre, comme le système de fusion des groupes sociaux, fusion de la bourgeoisie, de l'aristocratie, de la petite bourgeoisie, des aventuriers, tout cela se mêlant par les affaires et par le mariage. C'est aussi l'intelligence métaphysique, très sadienne de Dumas, prospérité du vice, infortune de la vertu, et c'est enfin, évidemment, là c'est vraiment ce qui est propre à Dumas, son intelligence romanesque, qui en fond est la résultante des deux précédentes, et qui repose sur le principe du retournement de situation totale, qui n'a rien à voir avec le coup de théâtre, mais avec le principe de vengeance propre au roman, avec le fantasme de compensation des malheurs.
Vous avez un exemple en tête?
Edmond Dantès, qui est vraiment celui qui compense entièrement le malheur, et qui est pour le lecteur un espace de protection extraordinaire. Et Edmond Dantès nous fascine parce qu'il incarne la toute-puissance, dont il est le médiateur parfait en tant qu'héritier à l'abbé Faria, toute puissance du savoir, toute puissance de l'or, retournée contre l'ordre social visible, l'armée avec Morcerf, la justice avec Villefort, la banque avec Danglars, et contre tous les mythes bourgeois de l'époque, famille, religion, thésaurisation, moralité. Mais il y a plus. On voit à travers Edmond Dantès, de Monte Cristo, que faire le bien ou accomplir la justice, réellement, et non plus en principe, peut être d'une cruauté absolue. Et sans doute, ne peut être que l'œuvre d'un monstre, qu'au fond, celui qui réellement accomplit la justice ne peut être qu'un monstre.
Et pour quelle raison?
C'est ce que nous montre. C'est-à-dire que dès lors que je veux faire la justice, je détruis le monde. Et donc, forcément, pour détruire le monde, il faut avoir une puissance et une violence qui n'appartient qu'au monstre, en quelque sorte. Et tout le génie du roman tient à ce que sa moralité, qui est incontestable, est en même temps le fruit de la plus haute immoralité. Parce que doit faire, évidemment, Edmond Dantès. Merveilleuse ambivalence que tant de romanciers ont cherché et que Dumas a trouvé.
Sur cette analyse d'Éric Marty, après on passera, Éric, à ce que vous avez repéré dans l'actualité littéraire, quel est votre sentiment, Mathieu Letourneux?
Ah, moi, je trouve que c'est très juste, mais en ce sens, je dirais que Le Comte de Monte Cristo est aussi un roman historique. C'est-à-dire que le roman débute en 1815 et il raconte aussi, finalement, la disparition d'une forme d'héroïsme qui a caractérisé la période antérieure et le retour... On pourrait dire que Dantès, ça serait un colonel Chabert qui se vengerait, c'est-à-dire qui refuserait la disparition de ce monde héroïque. Et c'est pour cela que même quand il travaille le contemporain, Dumas, mais comme tous les auteurs du 19e siècle, est un auteur historique. Le 19e siècle, c'est vraiment le siècle de l'histoire. Pourquoi? Parce que précisément, on écrit dans les journaux, donc on s'intéresse à l'actualité, et s'intéresser à l'actualité, c'est s'intéresser à la relation du passé au présent vers le futur.
Transition difficile avec le livre dont vous voulez également nous parler, celui de Georges Didi Huberman, Éric Marty. Pourquoi ce livre-là? De quoi parle-t-il?
Alors, on reste du côté du bien, on est à question du bien, puisque ce livre de Didi Huberman, Passé quoi qu'il en coûte, qui est paru en octobre, voilà, touche à la question des migrants, des réfugiés. Il m'a intéressé aussi parce que C'est l'un des thèmes du roman que je publie en mi-novembre, L'invasion du désert. Et j'ai retrouvé dans le livre de Didier Berman un même détour indépassable. Détour parce que le regard direct, immédiat, a toujours quelque chose de fou et d'obscène. Didier Berman ne parle pas des migrants. Il ne les a pas vus, les migrants. Il parle à partir d'un magnifique matériau, le poème d'une femme grecque, Niki Giannari, et les photogrammes du film de Maria Kourkouta, dont ce poème constitue le texte et qui s'intitule « Des spectres hantent l'Europe », sorte de documentaire sur un camp de réfugiés situé à Idoménie, à la frontière gréco-macédonienne. Ainsi, Lieberman échappe à une première illusion, une première obscénité, croire que nous sommes, nous, en mesure de voir les migrants, de savoir ce qu'ils sont. Et ils ne sont rien d'autre, en fait, que ce que la merveilleuse formule qui sert de titre au livre énonce « Passer, quoi qu'il en coûte ». Par là, aussi, Didier Berman échappe à l'obscénité des bons sentiments. Mais il touche aussi à une vérité en donnant cette formule, une forme d'un leitmotiv qui scande son livre, le ponctue presque à tous les 10 pages, en quelque sorte, passer quoi qu'il en coûte. Et j'aime cette formule, pour son caractère ramassé, buté, obtus, tenace. Les réfugiés ne sont nullement les travestis en victimes Saint-Sulpiciennes, mais sujet d'une tragédie de part en part concrète, et que disent bien les vers de Niki Giannari.
Passer quoi qu'il en coûte, c'est aux éditions de Minuit. Un dernier mot, Eric, rapidement.
Oui, il y a une très belle formule que Didier Berman a. Il parle, en voyant chez les réfugiés une forme de généalogie de notre propre histoire, ils appellent les réfugiés les êtres, un être ancestral. Et on comprend alors en quel sens ces réfugiés, effectivement, constituent bien l'être ancestral que nous sommes, que tout Européen est.
Merci, Eric Marty. À bientôt. C'est la suite et bientôt la fin malheureusement de cette série de la Compagnie des auteurs consacrée à Alexandre Dumas. Nous sommes avec Mathieu Letourneux, mais avant de le retrouver, écoutons une archive de Jean Renoir.
Alexandre Dumas dans mon esprit, disons dans mes rêves, existe plus parce qu'il a écrit que lui-même. C'est un personnage que j'adore maintenant, que j'adore en tant qu'homme qui ne rêve pas. C'est un personnage merveilleux, adorable, mais il ne faisait pas partie de mes rêves d'enfant. Alexandre Dumas, pour moi, n'existait pas. C'était un esprit qui, par un miracle curieux, avait créé tout un monde extraordinaire, invraisemblable, de gens charmants et que j'adorais. C'était surtout la période Henri III. J'ai lu à cette époque-là peut-être 100 fois La Dame de Montsoreau et Les 45 et enfin tout ce qui se passe autour de la Saint-Barthélemy et le commencement du règne de Henri IV.
C'est amusant cette idée de Jean Renoir, qu'il avait enfant, qu'Alexandre Dumas finalement ce n'était pas une personne, c'était une sorte d'esprit.
Ah, c'est une idée absolument éblouissante pour caractériser ce qu'est un auteur romanesque. L'auteur romanesque, c'est précisément cet auteur qui semble être absorbé par l'œuvre, se dissoudre dans l'œuvre. Pourquoi ? Parce que la puissance de l'œuvre tient au fait que tout le monde se l'approprie et qu'elle devient collective. Et de fait, les amateurs de Dumas sont sensibles à sa voix de conteur, à la façon dont on entend Dumas. Mais l'œuvre de Dumas, c'est de ces œuvres qui se donnent facilement et donc qu'on peut s'approprier et dans laquelle l'auteur ne s'impose pas dans le texte.
Il s'impose peut-être d'autant moins qu'il a écrit en collaboration. Et finalement, il n'y a pas un auteur, il y a, c'est vrai, un esprit. Le jeune Jean Renoir l'avait bien senti, un esprit qui est collectif.
Oui, on sait, les grandes œuvres d'Alexandre Dumas ont été écrites en collaboration avec Maquet. Les moins grandes œuvres ont été écrites en collaboration avec d'autres. Mais
Donc Dumas on sent bien la différence du collaborateur qu'il se choisit.
Oui, Alors, sur cette question de la collaboration, il faut en dire un mot, hein, parce que c'est le grand grief qui a été fait à Dumas. Il est double. Il est assez terrible. Hein, on connaît le texte de Mirecourt, fabrique de romans, maison Alexandre Dumas et compagnie. Mirecourt reproche à Dumas d'être un auteur industriel, puisqu'il travaille avec des collaborateurs, et donc c'est un chef d'entreprise et non pas un écrivain comme on l'imagine à l'époque. Mais il lui reproche aussi d'avoir des nègres, et donc d'être un négrier. Et il lui reproche d'être un nègre qui a des nègres. Et on voit bien comme Dumas va incarner cette mauvaise littérature, parce que aussi, c'est un nègre. Ça, c'est un point important, parce que, pour moi, c'est ce qui explique que de tous les écrivains du 19e siècle, Dumas soit celui qui a été le plus occulté et le plus cloué au pilori de tous ces écrivains. Revenons maintenant à Dumas et Maquet. Oui, c'est une collaboration. Oui, probablement, certains passages ont été à peine retouchés par Dumas dans les romans. En revanche...
On le sent, est-ce qu'on arrive à faire la différence entre les deux textes?
Bon, c'est un vrai problème compliqué. En tout cas, on a des romans écrits par Maquet qui sont d'un bien plus faible niveau. On a aussi retrouvé certains chapitres des Trois Mousquetaires écrits par Maquet qui n'ont plus rien à voir. N'ont rien à voir avec le texte final. Donc on voit qu'il y a régulièrement un vrai travail d'écriture. Or, on sait par ailleurs, parce que on a des témoignages, que certains passages n'ont pas été réécrits. Mais ce qui fait une œuvre, ce ne sont pas les passages, ce ne sont pas les paragraphes, c'est l'ensemble. Et c'est même par-delà l'ensemble d'un roman particulier, c'est la voix de l'auteur. Et la voix de l'auteur, on peut l'entendre même dans des passages, dans des pages qui n'auraient pas été écrites par lui, parce que son collaborateur, eh bien, voit comment l'auteur écrit. Et on est beaucoup plus dans un travail d'atelier, comme dans la peinture d'atelier, c'est-à-dire le peintre qui met la touche finale, qui reprend quelques éléments et qui met sa patte, son style. Et Dumas fonctionne de cette façon. Mais quand on regarde le détail des reprises, y compris dans les passages peu repris, on voit que cette touche finale, elle est fondamentale.
Alors, il y a plusieurs auteurs pour un même texte, on vient de le dire, mais il y a aussi des auteurs qui s'emparent des personnages inventés par Dumas pour combler en quelque sorte les trous laissés dans l'histoire par Dumas, Mathieu Letourneux. On a l'impression que, notamment quand on pense à ces titres, 20 ans après, par exemple, on a l'impression que pendant ces 20 ans, comme on ne sait pas ce qui s'est passé, au fond, tout le monde peut s'emparer de ces 20 années pour écrire ce que Dumas n'a pas écrit. Est-ce que c'est un petit peu ce qu'il se passe, selon vous?
Oui, ça c'est vraiment le signe d'une œuvre qui s'enracine dans la collectivité, c'est que les personnages de Dumas continuent à vivre, et leur descendance, bien après la mort de Dumas, et parfois même de son vivant, chez des auteurs qui leur donnent de nouvelles aventures. L'exemple que vous citiez, c'est-à-dire ce trou de 20 ans, a été comblé d'une façon assez amusante, même si pas très littéraire, par Paul Féval fils, fils donc du grand Paul Féval feuilletoniste, qui propose un D'Artagnan contre Cyrano, puis un D'Artagnan et Cyrano réconciliés, expliquant que Dumas a manqué un volume des manuscrits dont il s'était inspiré, qui raconte précisément ce qu'avait fait D'Artagnan pendant ses 20 ans, et chance, il a rencontré Cyrano de Bergerac, et donc on a des duels de D'Artagnan contre Cyrano de Bergerac, etc. Mais Paul Mahalin, autre épigone inventif, raconte les aventures du fils de Porthos ou du filleul d'Aramis.
C'est ça, donc on imagine toute la famille.
Ah, c'est une généalogie folle. Camille, un humoriste du début du XXe siècle, raconte aussi le fils des Trois Mousquetaires. Pourquoi est-ce qu'il peut être le fils des Trois Mousquetaires? Parce que sa mère a rencontré tour à tour chacun des grands mousquetaires. Donc, vous voyez cet esprit, mais ça dit une chose, c'est que un grand personnage, un grand imaginaire est repris par la collectivité, et à ce titre, les Trois Mousquetaires sont comme Sherlock Holmes ou Tarzan, des figures collectives.
C'est repris par la collectivité, mais on peut imaginer aussi que Dumas n'avait pas trop l'instinct de propriété.
Non.
Par rapport à ces personnages. C'est vrai que on imagine plus facilement reprendre les personnages des Trois Mousquetaires que reprendre, je sais pas, Madame Bovary, par exemple. Enfin, Il y a quelque chose quand même, on a l'impression qu'il était content que tout le monde s'empare un petit peu de son univers.
Oui, et même à plus d'un titre. Bon, d'abord, pour Madame Bovary, c'est un petit peu difficile au moins de raconter sa vie après, même si il y a eu une adaptation.
Non, mais pour raconter sa sœur, sa cousine,
voilà, mais il y a eu un Charles Bovary très connu, hein, donc c'est possible. Mais c'est vrai que c'est moins tentant. Alors, chez Dumas, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord ce que vous disiez, c'est-à-dire sa générosité. Hein. Vous avez parlé de la vie de Dumas. C'est quelqu'un qui est marqué par une grande générosité. Et par exemple, le cas de Mahalin est frappant. Mahalin, c'est un collaborateur de Dumas, journaliste, qui publie dans les journaux de Dumas. Et donc, on sent que c'est de l'amitié de lui permettre de partager ça. Et puis, il y a aussi, en effet, le fait que du vivant de Dumas, le monde des mousquetaires est déjà quelque chose de collectif. Et donc, il l'offre à la collectivité.
Oui. Alors, il faut parler un petit peu, pour aller encore plus loin dans la question de la sérialité, de la manière dont les mousquetaires vont dépasser jusqu'au domaine, au fond, de la fiction, et notamment à travers les journaux, notamment le journal intitulé Mousquetaire, ou Le Mousquetaire, je ne sais pas, qu'avait lancé Dumas. Donc là, on est encore, ça va encore plus loin, finalement, dans la mise en commun, dans la mise sur la place publique de ce qui devient presque un produit dérivé de l'histoire originale inventée par Dumas.
C'est tout à fait vrai. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Donc, il y a eu deux versions du Mousquetaire. Il y a eu un D'Artagnan aussi, hein, tous lancés par Dumas. Il y a plusieurs choses à dire. La première chose, c'est que être Alexandre Dumas et lancer le mousquetaire, c'est dire « c'est moi D'Artagnan », c'est dire « le mousquetaire, c'est moi, et je serai celui qui, dans le domaine du petit journalisme, ce qu'on appelle la petite presse... »
On peut redire un petit peu ce que c'était quand même ce très étrange journal.
Alors d'abord, c'est un type de journaux qui aujourd'hui n'existe plus vraiment, ce qu'on appelle la petite presse, c'est des petits journaux satiriques, culturels, qui parlent de l'actualité, il y aurait mille choses à en dire, mais où la voix du journaliste est omniprésente, où il se met en scène...
Il écrivait tout, Dumas. Oui, enfin, il disait en tout cas qu'il écrivait
non,
tout.
Non, il avait des collaborateurs, mais c'est vraiment, ça correspond exactement à ce qu'on a pu appeler la bohème littéraire. Hein. C'est des journalistes qui se connaissent tous, qui plaisantent ensemble, etc. Et donc, c'est vraiment cet esprit-là, où on fait des chroniques, où on s'adresse à son public, où on se met en scène, etc. Donc, on est vraiment là-dedans. Donc, en effet, la première chose à dire, c'est Dumas. Et puis, ses collaborateurs, c'est les mousquetaires. Ils forment une équipe de mousquetaires. Et puis, en effet, on est dans une logique de la circulation, d'une circulation qu'on sous-estime au 19e siècle, c'est-à-dire que bien avant Game of Thrones et des œuvres qui circulent d'un média à l'autre, faut pas oublier que le 19e siècle, c'est aussi le siècle de l'illustration et d'une gravure qui circule, mais aussi du théâtre. Tout est adapté au théâtre, ce qui est l'équivalent, si vous voulez, des adaptations cinématographiques aujourd'hui, des œuvres à succès. Un roman a du succès, il est immédiatement adapté au théâtre, et même dans l'autre sens, une pièce de théâtre a du succès, on en trouve des déclinaisons romanesques. Et donc, parmi ces déclinaisons, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le théâtre, je l'ai dit, il y a les illustrations, il y a les assiettes décorées, mais il y a aussi parfois les journaux, comme c'est le cas ici.
Et puis, il y aura, mais là, on fait un grand bond dans le temps, d'autres ersatz, comme par exemple les adaptations au cinéma.
Permettez-moi de vous présenter mes excuses à tous les trois.
Tiens, tiens.
En effet, vous avez le droit de me tuer le premier, monsieur Athos. Ce qui diminue beaucoup vos chances de le faire, monsieur Porthos, et ce qui rend les vôtres à peu près nuls, monsieur Aramis.
Alors, les gardes du cardinal!
Bon, le cardinal!
Voilà, voilà! Vous m'avez sauvé la vie, D'Artagnan, je ne l'oublierai pas. Nous étions trois, maintenant nous serons quatre. Ah, un pour tous!
Tous! Pour un!
La compagnie des auteurs sur France Culture, Mathieu Letourneux, vous avez reconnu Les Ferrets de la Reine de Bernard Bordery.
Oui. Qui n'est peut-être pas le plus connu la plus connue des adaptations. Il y a une chose très très frappante dans toutes ces adaptations, c'est que finalement ce qui disparaît de presque toutes les adaptations de Dumas, c'est l'histoire. C'est-à-dire qu'on voit bien que le monde de Dumas s'est autonomisé par rapport à l'histoire et que c'est un monde qui fonctionne en propre, avec des costumes qui n'ont plus grand-chose d'historique, des comportements qui n'ont absolument rien d'historique, parce que dans le fond, cet imaginaire, c'est un peu comme celui du western. Le récit de KPDP, le film de KPDP, c'est comme du western, on sort son épée, comme dans un western on sort son colt, et les discussions, les dialogues, les décors, tout ça appartient à un monde qui est finalement beaucoup plus le monde de notre mythologie vie et de nos imaginaires collectifs que le monde référentiel de l'histoire.
D'ailleurs, la question de l'histoire, elle est également intéressante dans le sens où finalement tous ces livres parlent davantage du 19e siècle que du siècle dont ils sont censés parler.
Oui, mais ça, c'est encore cette question de la fonction de toutes ces fictions médiatiques qui naissent au 19e siècle. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on se met à faire des romans historiques au 19e siècle? Parce que l'histoire est devenue un problème. L'histoire est devenue un problème parce que la monarchie et les républicains s'affrontent. Et donc, faire une histoire collective, c'est décider si les monarchistes ont raison ou les républicains ont raison. Donc, on ne parle que des conflits contemporains, on ne parle que de l'actualité dès lors qu'on fait l'histoire au 19e siècle. Mais je pense que c'est encore le cas aujourd'hui dans les fictions historiques.
Hein. Oui. Mais ça n'a pas quand même figé finalement un certain nombre de moments de l'histoire de France avec une vision qui était la vision du 19e siècle. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on n'a pas du coup tendance à prendre les yeux du citoyen, du lecteur du 19e siècle pour regarder un certain nombre d'événements de l'histoire plus ancienne?
Il me semble que tout le débat actuel sur le roman national ou sur la nécessité de l'histoire de déconstruire le roman national ou de construire le roman national se pose précisément à partir de ce 19e siècle dont un des buts était bien plus de construire un roman mythique collectif que de produire une histoire scientifique, si vous voulez. Et je pense qu'on en hérite directement, en effet, et que ce qu'on considère comme des moments ou comme des figures historiques sont en réalité des moments et des figures romanesques.
Et cette histoire de l'esprit français, par exemple, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, cette notion, la question du panache par exemple, le rapport à la séduction dont on parle beaucoup dans les médias, est-ce que vous avez l'impression qu'on est encore pour une part dans un paradigme pensé au 19e siècle, que peut-être justement on est en train de basculer sur autre chose? Quel est votre avis là-dessus, Mathieu Letourneux?
Je dirais qu'on en garde des traces, mais qu'il y a eu quand même les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale, de la décolonisation, parce que le panache français, il s'était largement reporté dans le roman d'aventure coloniale. C'est-à-dire c'était le jeune colon, le jeune voyageur qui était le français face aux Allemands lourdeaux et aux Anglais ennuyeux. Bon. Et avec la décolonisation et puis avec quand même la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale, après, on voit bien que ça fonctionne plus exactement comme ça. Il n'y a plus tout à fait le même panache. Il me semble qu'il y a un endroit où c'est resté, et on l'a entendu dans beaucoup d'affaires contemporaines, c'est la question de la galanterie française,
exactement,
qui est une reformulation de ce panache et qui, on l'a entendu dans les médias, a justifié des comportements qui, ma foi, se servaient de la galanterie et du panache pour faire passer des choses qui n'étaient pas nécessairement très galantes.
Oui, mais du coup, des romans comme ceux de Dumas ont tendance à faire passer comme étant une sorte de donnée du comportement français, ce qui n'est en fait qu'une construction, et qui est une construction en plus ancienne.
Oui, une construction ancienne, d'autant qu'il ne faut pas oublier que Dumas lui-même se nourrit de cet esprit français du XVIIIe siècle, bien sûr, hein, qu'il reformule, qui est celui, disons, de l'esprit voltairien, etc. Hein, donc il reconfigure quelque chose qui est déjà ancien et qui, oui, en effet, s'est transformé au fil du temps.
Oui. Sur la question de la centralisation, qui est aussi un thème, finalement, chez Dumas, enfin, est-ce qu'il le construit comme thème? Pas forcément. Est-ce qu'il a conscience d'être là sur cette question de la centralisation, ou est-ce que finalement il ne fait que, par l'inspiration, d'écrire ce qu'il a en tête et ce qu'il voit autour de lui? Est-ce que là aussi, sur cette question de la centralisation, vous verriez des ponts à faire avec aujourd'hui, ou ça vous semble plus difficile?
Alors d'abord, je pense que Dumas en avait conscience, parce que quand on regarde ces trois ans ensemble romanesque, il prend trois moments clés qui se répondent en réalité. Bon, mais ça serait un peu long de le développer. Pour la question de la centralisation, s'il y a bien une chose qui caractérise peut-être plus encore que le panache l'esprit français, c'est bien la centralisation.
Ah, c'est encore la faute de Dumas, ça.
Oui, ou peut-être a-t-il senti quand même un trait majeur de notre culture.
Oui. Alors, le XXe siècle, c'est peut-être l'association de Dumas, moi, à une forme d'esprit français qu'a ce qu'on pourrait appeler une posture littéraire, Mathieu Letourneux?
Oui, mais et ça encore, ça s'est construit avec quelqu'un comme Mirecourt, hein, c'était le seigneur et le nègre, hein, c'était celui qui anticipait déjà la figure du roi nègre, c'est-à-dire quelqu'un de avec des pratiques ostentatoires, un peu enfant, un peu très sympathique, bon vivant, etc. Une sorte de mythe individuel, pas si valorisant que ça, quand on le pense comme contre-mythe du mythe du grand écrivain. Dumas, c'est le contre-mythe du mythe du grand écrivain, et c'est pour ça, selon moi, qu'on a du mal à lui donner une place dans le canon littéraire.
Et c'est aussi le contre-mythe de l'écrivain moderniste. C'est aussi peut-être ce qui aujourd'hui le caractérise dans l'histoire littéraire, c'est qu'on va l'opposer finalement à une sorte d'intellectualisme de la littérature.
J'irai plus loin. Je pense que l'imaginaire de l'écrivain moderne qui va s'inventer sous le Second Empire, hein, avec Flaubert, Baudelaire, etc., se construit contre Dumas. C'est Dumas.
C'est une réponse à Dumas.
Mais, c'est-à-dire que Dumas est le feuilletoniste qui a eu la querelle du roman feuilleton et toute la crise de 48-51 et 1848-1851 et par la suite l'écrivain va refuser le médiatique, va refuser le commercial et va refuser les méthodes industrielles, tout ce qu'incarne Dumas.
Et donc ça crée un autre esprit français, un autre mythe français.
Oui, un autre mythe français et surtout la scission qui caractérise la culture française entre disons le romanesque et la culture qu'on pourrait dire quelle culture de consommation, disons la culture romanesque, et la grande culture.
Merci beaucoup Mathieu Letourneux pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un essai aux presses universitaires de Limoges qui s'appelle Le roman d'aventure et que aujourd'hui même vous publiez dans la collection Poétique au Seuil un nouvel essai intitulé celui-là Fictions à la chaîne et qui porte donc sur la littérature populaire et la logique sérielle comme on l'a dit dans cette émission. Justement la semaine prochaine nous allons, ça vous intéressera peut-être, nous pencher sur une série de romans particulièrement populaires puisqu'il sera question d'Harry Potter et de sa créatrice J.K. Rowling dans la compagnie des auteurs. Tout de suite, la poésie sur France Culture, Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Cette semaine, nous feuilletons ensemble Lettre de Blaise Cendrars. Tu m'as dit, si tu m'écris, ne tape pas tout à la machine. Ajoute une ligne de ta main, un mot, un rien, oh pas grand chose. Oui, 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 oui. Ma Remington est belle pourtant, je l'aime beaucoup et travaille bien. Mon écriture est nette et claire, on voit très bien que c'est moi qui l'ai tapé. Il y a des blancs que je suis seul à savoir faire, vois donc l'œil qu'a ma page. Pourtant, pour te faire plaisir, j'ajoute à l'encre deux, trois mots et une grosse tache d'encre pour que tu ne puisses pas les lire. Feuilleton, feuilleton, ce léger rien des choses qui ont fui. L'autre jour, nous avions entamé ce livre d'Alain Duhau. Cours, il court, chevauche, court, vole, vrille, échauffe, court, long, vif, il souffle, crache, crisse, il secoue ses os, ses vertèbres. On sent dans le début du poème que les mots se bousculent, se contredisent. Court, il court, chevauche, court, vole, vrille, échauffe, court, long, vif, il souffle, crache, crisse, il secoue ses os, ses vertèbres, la ruine sombre de sa peau, l'immense nuit des eaux funèbres, il est plus grand que la douleur, plus beau que l'or des yeux. Il court sur tous les chemins, les montagnes, les gouffres, les vallées de vagues, il rafle les pigeons et les aigles, dévaste les plaines, se rue fou dans les désirs sans fond, l'affreuse haleine autour de lui se frotte aux murs griffés. Il est le rythme, il est le monde affolé, l'ardente flamme, il file nuit à perdre lune, il appelle, il avale, il ébène, je suis comme ce cheval noir qui s'épuise et se brise et souffle sur ses lèvres pour oublier les ténèbres de l'âge. Cheval, cheval, je criais dans les forêts, j'étouffais sous l'eau du vent dans le charbonnage infini des âmes. C'était un temps à ne pas me reconnaître moi-même, un temps d'ordures répandues et de lits saccagés. Comme l'adieu, je filais entre les murs qui se resserraient sans cesse. Cheval, cheval, oublié parmi les vagues. J'étais ce cheval noir emporté jusqu'aux éclats de l'aube quand elle ricoche sur la peau encore humide du plaisir. J'étais ce cheval, mâchoire flamboyante, tout muscle saillant qui piétine son cavalier dans le ravin. Je me cherchais au bord des rochers luisants, la détresse sur mes épaules, affolé quand je dévalais cheval, les pentes et les vallées où je m'effondrais pantin désarticulé par l'effroi, avant de remonter cheval jusqu'à la cime des arbres enflammés, et j'arrachais tous mes bandeaux, je regardais autour de moi, c'est un enfant abandonné, et je me laissais rattraper par le souffle, par la peur. Lionel Rey vient adoucir cette course folle dans ses souvenirs de la maison du temps. On tire « Parade », titre repris à Rimbaud. Les mots silencieux, à peine pensés, à peine écrits, qui vous ressemblent. On les prononce du bout des lèvres. Ce sont ceux-là qui font métier de vivre. En pays inconnus, ils portent en eux des filtres et des rêves, un ciel continu. C'est la clé du temps et le chiffre d'un perpétuel présent.
Merci Jacques Bonafé pour ces lectures de poésie parmi lesquelles on a pu reconnaître celle d'Alain Duhaut.